L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, ça fait du bien d'être à Château-Gontier.
Et oui, bah, ça s'entend de toute façon, un son clair, en effet, sans mauvais jeu de mots.
Oh là là.
Et donc, bien plus agréable aussi d'être... Comme ça, en studio, c'est plus facile. J'espère pour vous aussi, chers auditeurs, que c'est plus agréable, même si c'est tout aussi bien de t'avoir en visio.
Oui,
hein, mais là,
bon.
On est quand même bien mieux. Oui. Aujourd'hui, justement, on va parler d'un reportage que tu as fait, Claire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, bah, c'est à propos d'Ivan, un jeune de 22 ans. Et c'est hyper touchant de savoir qu'il est hyper bien intégré, mais qu'il va être expulsé. Donc voilà, affaire à suivre.
Voilà, c'est ça. Donc un Albanais menacé d'expulsion. On entendra ton reportage tout à l'heure. On va parler aussi d'un trio d'amis de 20 ans, des Lavalloises, qui vont se lancer dans une aventure cet été, si tout va bien, Europe Raid. Elle s'appelle donc LCL Trio, vous les entendrez tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, voilà un objet qu'on utilise, peut-être moins aujourd'hui, mais quand même un objet du quotidien, le timbre-poste. Est-ce que vous connaissez vraiment son histoire? En tout cas, Swazik nous la raconte en fin d'émission.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Dans la région, les élus rendent hommage à Marielle de Sarnez.
La bras droit de François Bayrou, la députée MoDem et éphémère ministre des Affaires européennes, est décédée à l'âge de 69 ans. L'ancien sénateur mayennais Jean Arthuis salue son engagement européen et rend hommage à la mémoire d'une illustre figure de la famille centriste. Le député mayennais Guillaume Garot évoque, lui, une parlementaire dont la voix était écoutée sur tous les bancs. Quant à l'eurodéputée Valérie Ayer, elle se souvient d'une femme politique à la détermination unique.
L'adolescent disparu depuis dimanche à Saint-Pierre-Denis a été retrouvé.
Une bonne nouvelle hier soir. La famille d'Ethan, 13 ans, a annoncé que l'adolescent avait été retrouvé sain et sauf. Il n'avait plus donné signe de vie depuis dimanche dernier. Originaire de l'Orne, Ethan était dans une famille d'accueil à Saint-Pierre-Denis et devait en changer. C'est en apprenant cette nouvelle qu'il aurait quitté la maison. La gendarmerie était depuis à sa recherche.
Un élu mayennais demande son soutien à la ministre des Sports.
Nicolas Potier, adjoint au sport de la mairie de Changé et en parallèle président du district de football de la Mayenne, a écrit à Roxana Maracineanu pour demander une aide fiscale pour les clubs sportifs mayennais. Selon Nicolas Potier, une mesure comme par exemple une déduction fiscale pour ceux qui s'acquitteront d'une cotisation à un club peut permettre aux enfants de retrouver une activité physique, sportive ou culturelle.
Comme d'autres salles de spectacle, le kiosque à Mayenne contraint d'annuler des dates.
Le concert de Maria Dolores Yampala Quartet le 22 janvier et 10h10 de la compagnie Nayash, initialement prévu le 28 janvier, n'auront donc pas lieu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas être remboursé pour que la somme de vos billets soit versée au collectif des festivals du 53. Il suffit d'envoyer un mail avant le 18 février à v.martin@kiosque-mayenne.org. Et à l'inverse, pour être remboursé, il vous faudra attendre début mars pour recevoir un chèque par courrier ou un virement si vous avez acheté votre billet en ligne. En parallèle, les conservatoires sont fermés pour les adultes à Mayenne, mais les ateliers jeunes sont maintenus mardi soir et mercredi après-midi.
Bruno Bouygues, sacré manager de l'année 2020 en Mayenne.
C'est le PDG de l'entreprise GIS, spécialisée dans le matériel de soudage et de réparation de carrosserie. Elle emploie 550 salariés en Mayenne et possède plusieurs usines en Europe et en Chine. Une année est forcément particulière pour GIS, qui a misé sur l'achat de composants pendant le confinement pour être prêt lors de la reprise. Stratégie payante, puisque selon son PDG, l'entreprise mayennaise a gagné plus de clients en 6 mois qu'en 10 ans.
Belle performance de la judokate Vanessa Mbala.
La licenciée camerounaise du club de Château-Gontier est arrivée 5e au Masters de judo de Doha au Qatar. Une place dans le top 10 prometteuse pour les prochains Jeux Olympiques. Salue le maire de Château-Gontier-Bazouges, Vincent Saulnier.
Et sur la route du Vendée Globe, la première place toujours très disputée.
Et oui, c'est Charlie Dalin au dernier pointage à midi qui est en tête, talonné par Louis Burton. Les 9 premiers sont toujours dans un mouchoir de poche et suit pas si loin que ça à la 10e place Maxime Sorel sur son bateau VNB Mayenne. Et puis Claire, on en parlait en tout début d'émission, hier après-midi, tu t'es rendue à la manifestation face à la décision d'expulsion d'Ivan.
Et oui, une centaine de personnes s'est rassemblée devant la préfecture de Mayenne à Laval pour ce jeune de 22 ans, détenteur de 2 CAP, très bien intégré dans son établissement et auprès de ses camarades, qui a reçu mercredi matin une convocation à la gendarmerie où il ne s'est pas rendu, après un avis d'expulsion vers son pays d'origine, l'Albanie. Une aberration pour ses camarades et professeurs présents et pour le réseau d'éducation sans frontières, organisateur de la manifestation. Catherine Destop, membre du réseau de Mayenne, nous explique ce qu'attend la délégation en rendez-vous à ce moment-là à la préfecture.
On espère que le préfet va accepter de revoir le dossier et puis de prendre en compte tous les arguments qu'on avance et puis qu'il va accepter de le régulariser. Mais c'est vrai que toutes les réponses qui sont tombées ces derniers temps sont des réponses négatives. Donc on s'interroge, quoi. On se demande si vraiment les dossiers sont étudiés. Et il y a sans doute des directives qui viennent du ministère de l'Intérieur, mais on sait aussi que le préfet il a quand même une marge de manœuvre. La démographie de la Mayenne n'explose pas non plus. Enfin, il y a de la place en termes de logement, ça embauche aussi. Il y a des entreprises qui peinent à trouver de la main-d'œuvre. Alors ces familles, elles ne cherchent pas à vivre des prestations sociales, elles ne veulent pas du tout vivre au crochet de la société. Elles veulent pouvoir travailler, elles le peuvent, et pour subvenir à leurs besoins. Alors actuellement, à Mayenne, il y a 7 personnes qui sont assignées à résidence et qui se présentent à la gendarmerie 2 fois par semaine et qui peuvent à tout moment être retenues, envoyées vers un centre de rétention administrative pour être expulsées.
Je m'appelle Mathis, je suis en terminale bac pro TMA en menuiserie. C'était avant tout comme un grand frère, puisqu'il a toujours été là pour nous. À chaque problème, je savais que je pouvais compter sur lui, donc oui, c'est important pour moi.
Mathieu Michino, je suis professeur au lycée Gaston Lénard. Là, j'ai eu l'occasion d'enseigner les cours d'EPS à Ivan. C'est très important de montrer à Ivan qu'on le soutient, qu'on est là pour lui. Lui a toujours su faire les efforts nécessaires à sa réussite professionnelle. Et nous, de notre côté, on fait un petit geste en le soutenant. C'est aussi un message pour tous les élèves sans papier qui sont aussi volontaires et qui travaillent au quotidien avec nous et qui font de gros efforts pour leur montrer que quand ils jouent le jeu, nous aussi, de notre côté, si on peut les aider, on le fait. Dans le cadre de sa formation professionnelle, il a fait des stages. Chacun des stages qu'il a réalisés en entreprise, toutes les entreprises étaient prêtes à l'embaucher à l'issue de son stage. Pour l'instant, jamais plus commencer à travailler parce qu'il n'avait pas de papier. Donc, c'est un handicap qu'il n'a pas réussi encore pour l'instant à surmonter. C'est quelqu'un qui naturellement va s'investir dans tous les projets qui sont mis en place. Donc il était président de la Maison des lycéens, qui est une association d'élèves au sein du lycée, pour organiser la vie du lycée. Il était membre du bureau de l'association sportive. Il était représentant des élèves au conseil d'administration du lycée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est exemplaire, parfaitement intégré, et qui en plus, du coup, a des qualifications sur des métiers qui nous intéressent, dont le département a besoin, dont les entreprises ont besoin. Il est plombier électricien, quelqu'un de compétent et de sérieux, et on en recherche. Ce qui est aberrant, c'est qu'on s'investit. On s'est investi auprès de lui, affectivement, professionnellement, mais on y met forcément un peu d'affectif. Et donc de voir que quelqu'un qui réussit, qui fait les efforts, n'est pas récompensé au bout, c'est incompréhensible. On a un sentiment d'immense gâchis.
Malheureusement, après l'entretien, la préfecture n'a pas pu donner suite aux demandes des manifestants. Seule solution pour Ivan, retourner en Albanie pour demander un visa de longue durée à la France. Mais il faut que les autorités albanaises lui accordent un permis de sortie. À suivre, donc.
Merci beaucoup Claire, en tout cas pour ce reportage au sein de la manifestation hier après-midi. On va suivre évidemment cette histoire. Et on parle de... un sujet un peu plus léger en tout cas. 3 amies lavalloises qui veulent s'envoler pour... Enfin alors pas s'envoler justement puisque l'idée c'est de prendre sa voiture, une 205, et faire un rallye humanitaire en Europe de l'Est. Vous entendrez leur histoire et pourquoi elles se sont mobilisées d'ici quelques minutes, juste le temps d'écouter les Lehman Brothers avec I Wanna Be.
we should stay friends, but I don't like it one bit. Yeah, 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 yeah. I'm only here for some passionate love, or maybe some sensual intimacy.
Des Lehman Brothers sur l'autre radio. Vous écoutez toujours notre quotidienne du midi, l'agité du local. Et on va parler là, d'ici quelques instants, d'un raid humanitaire de 10 000 km en voiture en 205. C'est le défi que se sont lancés trois amies originaires de Laval, Laura Lesage, Claire Genouel et Laura Herriot. Elles forment, vous l'avez compris avec leurs initiales, le LCL Trio, qui participera à l'Europe Raid en 2021, du 31 juin au 21 août prochain. Rencontre avec deux des membres du groupe.
Moi, du coup, je suis Laura, la présidente. Donc j'ai 20 ans et j'étudie à Lannion, je suis en licence pro tourisme et numérique.
Du coup moi c'est Laura, donc la secrétaire. Moi je suis actuellement aide-soignante depuis juillet dernier à Laval du coup. Et pour la présentation de Claire, donc pareil, elle a 21 ans, elle est également aide-soignante depuis juillet, pareil, elle travaille à Laval.
Et c'est la trésorière.
Quel est votre projet? Qu'est-ce que c'est EuropeRaid? Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça va se concrétiser?
Et bah, du coup, c'est un raid humanitaire, donc ça consiste à récolter 70 kilos de fournitures sanitaires, scolaires et sportives. Et à côté, bah, du coup, de récolter des fonds pour pouvoir acheter la 205, puisque du coup, c'est un raid qu'on fait en 205 à travers l'Europe. Donc, on fait à peu près 10 000 kilomètres. Et dans les pays et dans les écoles les plus défavorisées, on va déposer en fait ce matériel. Donc, il fallait récolter pas mal de fonds déjà pour acheter la voiture. Donc, ça, c'est fait. En fait, il y a un sponsor qui nous a fait le don de la voiture. Donc, on l'a. Et après, il faut des fonds pour tout ce qui est essence, pour l'inscription qui coûte 2 800 €. Et tous les à côté, en fait, parce qu'il faut qu'on achète aussi le matériel pour le bivouac. Enfin, il y a pas mal de fonds à avoir de côté.
Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé toutes les trois à vous lancer dans ce projet d'EuropeRaid?
Du coup, en fait, on avait vu sur les réseaux un petit peu, parce qu'il y a pas mal d'équipages en Mayenne qui participent. Et j'avais envoyé aux filles plusieurs publications que j'avais vues sur les réseaux sociaux de gens qu'on connaît. Et en fait, ça s'est vraiment fait sur un coup de tête. On en a parlé pendant une journée. On s'est dit, vas-y, on se lance. Et on s'est lancé.
Et donc après, comment ça s'est fait? Parce qu'on se dit, OK, c'est une super idée. Mais après, comment concrétiser? Quelles ont été les premières étapes, on va dire?
Bah après, on en a parlé à nos entourages parce qu'on s'est quand même dit, bon là, on se fait des plans, mais voilà. Nos entourages, ils ont directement été avec nous. Donc ça, c'était super cool. Et du coup, après, la première chose, ça a été déjà de créer nos réseaux pour se faire connaître et ensuite de créer l'association. Donc ça, ça a été assez compliqué, beaucoup de papiers, beaucoup de... Bah, de choses qu'on n'avait jamais faites. Il fallait qu'on ait des statuts et tout ça. Donc voilà, ça a commencé par là.
Vous allez traverser quel pays exactement, en fait?
Alors du coup, on part de La Roche-sur-Yon, donc en France. Ensuite, on traverse la Suisse, l'Italie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie, la Grèce, et on remonte en Macédoine, en Bulgarie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, et on revient par le nord, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, et ensuite l'arrivée se fait au-dessus de Paris.
Donc j'imagine qu'il y a aussi dans le lot des pays que vous ne connaissez pas?
Oui.
Nombreux.
Oui, bah, au moins tout l'Est, on n'a pas beaucoup connaissances dessus. Ouais, après, on a des connaissances scolaires, on va dire. Et puis aussi, ce qui est super intéressant, c'est que, on va dire, 80% des équipages, ce sont des étudiants, donc des gens de notre âge. Donc ça aussi, c'est super intéressant.
En termes de budget, vous avez une idée de ce que ça représente au total?
Nous, on avait mis 8 000 euros de budget. Après, ça varie en fonction de chaque équipage. Donc le budget, on le revoit assez souvent. Parce que là, nous, par exemple, on n'a pas eu besoin d'acheter la voiture, donc notre budget, il a un peu diminué. Ou alors, là où on s'est dit au début, on va faire des économies, ben, finalement, on se dit qu'on va pouvoir un peu plus dépenser vu qu'on n'avait pas acheté la voiture. Donc voilà. Les prix sur lesquels on est sûr, du coup, c'est l'inscription. Et ensuite, pour tout ce qui est péage, essence et nourriture, c'est l'organisme Repred qui nous avait donné des indications sur leur site pour nous aider à constituer le budget.
Et donc là, vous en êtes où à peu près aujourd'hui, sachant qu'on a dit donc la voiture, ça, c'est bon, c'est fait, puisque il y a eu ce grâce à ce sponsor. Et après, au niveau de la campagne de dons ou même des mécènes, je ne sais pas qu'est-ce que vous sollicitez du coup pour justement finir ce budget.
Ouais, alors pour l'instant, on est préinscrite. Et on a 7 sponsors, dont un sponsor, c'est une imprimerie. Donc, eux, ils ne nous donnent pas du tout d'argent. Ils nous impriment juste tout gratuitement. On peut s'inscrire. On a les 2 200 euros pour finir l'inscription. Juste, on attend que le certificat de la voiture soit complet. Parce qu'en fait, la voiture doit être presque refaite à neuf pour parcourir les 10 000 km. Donc, c'est le garagiste qui doit changer tout un tas de choses. Et sinon, en octobre, on a fait une vente de chocolat avec Réauté. Donc, ça nous a récolté pas mal de fonds. Et ensuite, pendant tout le mois de décembre, on était présente à Intersport à Laval, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches, pour faire les papiers cadeaux. Et donc, en échange, on a eu pas mal de dons des clients qui venaient emballer leurs papiers cadeaux.
Il y a d'autres actions qui sont prévues là, dans les prochaines semaines ou les prochains mois?
On n'a rien encore de concret, mais on a pensé toutes les trois à une vente de saucissons. On préfère attendre un petit peu parce qu'on sort tout juste des périodes de Noël, des papiers cadeaux et tout. Et c'est vrai que là, pendant 3 mois, on était vraiment à fond. Et plus nos activités perso à côté, on était assez fatigués. Mais du coup, on s'est dit plus au printemps, quand il commencera à faire beau, pourquoi pas vendre du saucisson pour les petits apéros. Enfin, voilà.
Ouais. On aurait aimé aussi faire... une soirée, soit avec un bar associatif qui voulait bien le faire avec nous, ou alors plutôt une soirée loto. Sauf que, du coup, avec le Covid, c'est pas possible pour le moment. Donc, on verra bien. Mais on avait en tête de faire une soirée pour se faire connaître encore plus, pour récolter des fonds et puis
forcément, vous n'échappez pas au contexte actuel et donc au fait du Covid et du confinement. Est-ce que ça reste toujours dans un coin de votre tête de dire « bon, bah, là, c'est prévu pour le mois d'août, c'est ça ?» Est-ce que, du coup, vous y pensez quand même ou l'idée, c'est vraiment de tout préparer, voilà, en partant du principe que ça va se faire et puis bah, après, vous verrez bien au final.
On s'est toujours dit qu'on partait du principe qu'on allait le faire, donc on va jusqu'au bout des choses. Après, il faut savoir qu'il y a une édition tous les ans. On s'est mis d'accord que si jamais il n'y avait pas de possibilité de le faire en 2021, on s'est dit qu'on se donnerait les moyens de le faire en 2022 s'il y a une édition 2022, mais après, c'est déjà prévu. Mais là, on fait vraiment comme si on partait cet été, en fait.
Ouais. Après, on a quand même dans le coin de nos têtes que ça se trouve, ça ne va pas avoir lieu. On se prépare à ne pas être déçu si ça n'a pas lieu, mais on sera forcément déçu.
Qu'est-ce qui, vous, en tout cas, vous plaît dans ce projet de rallye humanitaire, sachant que vous avez dit donc la voiture, apparemment, il faut un peu toute la réviser. Donc, j'imagine qu'il faut maîtriser un peu la mécanique, tout ça. Après, il y a aussi l'aspect vraiment humanitaire, donc de récolte des fournitures. Aventure aussi entre vous, j'imagine, entre copines. Enfin, voilà, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous craignez? Enfin, voilà, comment vous voyez les choses?
Moi, personnellement, ce qui me plaît, c'est déjà de partir dans l'inconnu. Parce que, on va faire partie de l'organisme EuropeAid, mais c'est quand même un peu l'inconnu. Aller aider des enfants, leur donner le sourire, leur apporter tout ce matériel. Et puis, découvrir de nouveaux pays et partir toutes les trois. Enfin, même si ça ne sera peut-être pas tout beau, tout rose tous les jours, ça sera une expérience gravée à jamais. Après, sur ce qui nous fait peur, on avait parlé de la mécanique. On a une assistance mécanique qui sera avec nous, donc ils vont nous aider quand même. Et puis notre garagiste, il va nous faire des cours de mécanique. Donc ça devrait le faire, mais ça nous fait un petit peu peur.
Après, on se dit qu'on est plus de 300 équipages à partir. Donc, on se dit qu'il y aura forcément des bras forts qui s'y connaîtront dans la mécanique. Donc, ça nous inquiète un peu, mais on se dit qu'on y arrivera. On arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire maintenant grâce à l'association. Donc, pourquoi pas la mécanique?
Qu'est-ce que vous avez appris justement là déjà en quelques mois, presque un an quasiment de préparation de ce projet?
On a appris à travailler ensemble.
Oui,
ça c'est déjà un gros point. Parce que on est copines, mais on n'a jamais travaillé ensemble et tout ça. Donc, il a fallu apprendre à travailler ensemble déjà.
Oui.
Et sinon, on a appris à gérer une association, à faire, à démarcher des sponsors, à démarcher des entreprises. Alors qu'au début, on ne se sentait pas du tout capable de faire ça. Passer des appels, envoyer des mails, voilà. Je pense qu'en faisant ça, on a quand même pas mal pris en maturité. Parce que là, vraiment, on s'est débrouillé tout seul. Il y a personne d'autre pour nous aider. On n'y a vraiment que nous trois.
Et puis c'est vrai qu'on s'est découvert un peu tous les trois sous un autre angle aussi. Ça a renforcé quand même notre amitié parce que, mis à part faire la fête et rigoler entre copines, c'est tout ce qu'on savait faire toutes les trois. Et c'est vrai que là, on voit vraiment un autre visage de nous, quoi. Non, je trouve ça beau.
Et justement, le fait d'être toutes les trois, peut-être que certaines sont plus à l'aise pour faire certaines missions, d'autres sur autre chose. J'imagine que chacune a un peu ses spécialités aussi.
Ouais, ça c'est un peu fait dès le début, au moment de la création de l'association, du coup. Moi, je suis plus dans la gestion des papiers, tout ça. Enfin, voilà. Je suis un peu la maman du groupe. Donc, voilà. Après, Laura, elle a toujours été dans la communication. Elle a toujours eu facilement un lien avec les gens, aller vers des personnes et tout ça. Donc, voilà. Et Claire, pareil, dans la gestion. Claire, elle fait un petit peu deux, du coup, dans la gestion de tout ce qui est... l'argent, vu que c'est la trésorière, et aussi des marchés à des gens.
Et donc là, par rapport, je pensais aux fournitures que vous allez donner tout au long de votre voyage, est-ce qu'il vous manque encore des choses ou comment est-ce qu'on peut vous aider?
On a pesé justement il n'y a pas longtemps combien de fournitures on avait. On est rendu à peu près à 42 kilos. Donc, il nous reste encore à peu près 30 kilos à avoir et on vise un peu plus justement parce qu'en fait, y a des choses que les enfants de 6 à 15 ans n'utilisent pas et qu'on a dans les dons de fourniture qu'on a eus, comme les cahiers à grands carreaux ou les gros classeurs. Donc, on vise plus parce qu'en fait, la veille du départ, on voit l'organisme de l'Europe Aide et il trie en fait ce qu'il a besoin ou pas. Donc, voilà. Mais oui, il nous manque 30 kilos de fournitures du coup aujourd'hui.
Ce qui nous manque le plus, ça va être au niveau des fournitures sportives. Mmh. Donc tout ce qui est affaires de sport, ballons, raquettes, tout ça. Et sanitaire, donc tout ce qui est dentifrice, brosse à dents, gel douche. Tout ce qui est cahier dans le scolaire, c'est ce qui est le plus facile à trouver. Donc ça, on en a vraiment beaucoup.
Et donc après, comment on peut faire pour vous le donner ou en tout cas que ça vous parvienne et vous aider de manière générale?
En fait, il faut directement nous contacter, donc soit sur nos réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook, ou alors directement par mail.
À l'adresse lcltrio2021@gmail.com ou chercher LCL Trio sur Facebook ou Instagram. Pour les soutenir, une cagnotte en ligne a été créée sur Hello Asso. Les trois amis cherchent aussi des sponsors si jamais vous êtes intéressés. On revient d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Guts avec It's Like That. Word up. Yeah, it's cool, killer. One time live in your motherfucking mind. Always remember, keep your guard up when your eyes low. Cause the dough will make your homies go behind you. That's true, look what the cash do. Mad proof, bags rule, they told you the cash rules. I guess I'm different cause I go by regulations. Closer to the spirit world, I had some revelations. Dreams vivid, clairvoyant homie was born gifted. Consistent positivity, my shaping never shifted. Cause niggas is shifty, reptilian sexy, niggas is nixy. Trusting them risky, you keep it 100 but they keep it 50. They tryna get rich or die trying. A Rico off Mitch just tryna get paid full, I ain't lying. All eyes open, un goût toi. See the enemies, the scouts, his friends, get front on moi. Yeah, you know that look, he never get him a stuck. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Word up. Y'all speaking on the facts of the world right now. Cause it's wicked out of these mean streets, you dig? Check. Gemma Pell, cool killer, ain't no illa. Off the wall, Mike Jack, a born thriller. Sim Simmer, who got the keys to the bimmer? All white, 22s, drop top, see the moon shimmer. Scintillation, got him high on state of elevation. No fabrication, coupe is smooth, don't need no lubrication. Call me Flash, cause I'm lightning and Tyson. You heard what happened in my last fight, friend, I then. And that's word, the big yo-yo, throw elbows to any nigga tryna catch rap, they bound to collapse the DILLONCOOP. Catch me liming with a Cotty out from Normandy, you see. She love the way I smile, I can't blame her. But if she get too attached, I tell her adios, I'll see you later. It's like that, y'all. It's like that, y'all. It's like that or the that. It's like that, y'all. Ba 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 da. Say ba ba da ba da da. Ba ba da ba da ba da da. Got them horns right now, you know what I'm saying? It's feeling good. Feel that jazz vibe. Wah ba ba da. vient d'écouter Guts sur l'autre radio. Vous êtes toujours dans l'émission L'Agité du local. Et c'est l'heure de partir à la découverte de l'histoire mondialisée d'un objet du quotidien avec Swazik. Bonjour Swazik. Alors vous voilà de retour pour une nouvelle chronique des objets pour un monde. Et on s'intéresse aujourd'hui au timbre-poste.
Et oui Marie, aujourd'hui nous continuons notre voyage dans le magasin du monde avec ce petit objet qui respire le voyage, ça tombe bien quand on est confiné, le timbre-poste. Alors allons-y. 6 mai 1840, la jeune reine Victoria est le premier souverain de la planète à apposer son visage sur ce petit bout de papier qui désormais accompagne tous les courriers à travers le pays, le continent et le monde. Et le monde appartenait au Royaume-Uni à l'époque. 1er janvier 1849, observant le succès du timbre anglais, la France met en vente le Cérès, du nom romain de la déesse des moissons, symbole du nouveau régime de la toute jeune Deuxième République. Son tarif va de 20 centimes pour le noir à 1 franc pour le rouge, selon le poids du courrier, déjà à l'époque. Très vite, toutes les grandes nations du monde vont adopter le timbre pour profiter du double dividende qu'il rapporte. En effet, il permet d'une part de collecter une nouvelle taxe, toujours la bienvenue dans les caisses des États. D'autre part, il devient un média naturel pour diffuser à l'autre bout du monde le visage des souverains pour les monarchies et des symboles patriotes pour les républiques. Les insignes nationales se mettent donc à emprunter les voies postales internationales. Toutefois, pour maintenir le moral des troupes, l'affranchissement postal sera levé durant les 4 années de la Grande Guerre pour que les soldats puissent communiquer librement avec leurs familles. Aujourd'hui, le timbre-poste est devenu un objet de passion. Les philatélistes, reclus dans leur tanière, échangent leurs trésors dans le monde entier. Il est devenu également un objet d'art, puisque sa fabrication nécessite aussi bien des méthodes artisanales qu'industrielles. D'ailleurs, la France se distingue dans ce savoir-faire avec son imprimerie des timbres-postes et des valeurs fiduciaires, tel est son nom, installée à Boulazac, en Dordogne, depuis 1970. Les designers s'y mettent également pour égayer nos courriers de timbres de toutes les couleurs et de différentes formes. Par exemple, le timbre en forme de cœur dont les nostalgiques du papier ornent leur courrier amoureux de la Saint-Valentin. Enfin, le timbre, c'est aussi la promesse du bon acheminement de ce petit cadeau du bout du monde qu'est la carte postale. Ainsi, Marie, à travers le timbre, ce n'est pas seulement un objet de papier qui parcourt le vaste monde, mais également un peu de toutes les nations qui se croisent dans les avions, les bateaux, les camions ou sur le vélo du facteur. Réservons donc une place de choix à ce minuscule objet dans le grand magasin du monde.
Merci Swazik, une chronique à retrouver comme toutes les autres sur l'autreradio.fr. Dans les chroniques, vous pouvez chercher des objets pour un monde. Et on termine comme d'habitude avec notre rubrique initiative présentée par Claire. Et Claire, on parle du numérique au service de nos restaurateurs.
Et oui, ce sont deux jeunes de Poitiers qui ont créé des groupes Facebook appelés On va au resto, groupe de soutien donc pour nos restaurateurs. Et il y a un groupe pour Laval avec déjà plus de 500 adhérents. Le principe, permettre aux restaurateurs de diffuser rapidement leur menu du jour, de faire une petite promotion et d'indiquer s'ils livrent ou font la vente à emporter. Au vu du succès et de l'impact positif, les deux jeunes cherchent maintenant des bénévoles pour gérer la page. Ils ont aussi créé une application gratuite qui vous propose toutes les ardoises du jour des restaurants proches de chez vous. C'est une application mobile et pour ordinateur appelée SUGG 1144, donc S-U-G-G 1144.
Merci Claire, c'est bien noté. Et puis une question, est-ce que vous avez participé au Noël en folie ?
Alors, on le rappelle, il y avait 480 000 lots à gagner, oui oui, dont des voitures, vélos électriques, des déjeuners et des bons d'achat de 200 € en achetant en proximité chez plus de 200 commerçants locaux. Rendez-vous sur le site de Château-Gontier pour savoir si vous êtes l'heureux gagnant et rendez-vous surtout ce samedi 16 janvier à l'espace Saint-Fiacre de 9h à 11h, puis de 14h à 17h pour retirer vos cadeaux.
Je crois que, petite précision Claire, si je peux me permettre, je crois que c'est 480 000 € à gagner et donc il y a eu 7 200 gagnants, mais ce qui est déjà quand même énorme.
Hein. Ouais.
7 000 gagnants donc qui, comme tu le disais, pourront aller le récupérer samedi dans la journée, j'allais dire dans l'après-midi, mais aussi le matin de 9h à 11h. Ouais. Merci beaucoup Claire pour ces initiatives. N'hésitez pas à nous laisser les vôtres toujours sur notre répondeur, on le rappelle, au 09 70 40 54 40. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Tout simplement, notre compte, c'est l'autre radio. C'est la fin de notre émission La JT du local pour ce jeudi. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous en direct du studio à Château-Gontier.
Eh oui, ça fait du bien. Et demain à Laval, demain déjà vendredi.
Effectivement, pour la dernière de la semaine, tu seras à Laval et on continue évidemment. Vous pouvez bien sûr rester sur l'antenne puisqu'à 19h, il y aura le masque et la tronçonneuse consacrés au film que vos animateurs auront vu pendant les vacances. Vous allez voir, il ne manque pas de piquant, hein, ces films. Et puis à 21h, quand la musique est bof, pour bande originale de film, une émission spéciale tueur né, je vous laisse découvrir. Et nous, vous l'avez compris, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine à 12h15. Très bonne fin de journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.